Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est mardi le 28 juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes toujours en vacances? C'est la deuxième semaine des vacances de la construction. Et puis, le temps et la température s'annoncent moyens, mais quand même, on va pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir en profiter, puisqu'il y aura quand même du soleil à travers la pluie, mais la pluie s'en prend hein, pour la nature. Mathieu Tessier est en vacances. Bonnes vacances, Mathieu. J'espère qu'il ne nous écoute pas, parce qu'il faut décrocher en vacances. C'est Maurice Bolduc qui est là. Bonjour, Maurice.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bien vous-même.
Oui, ça va bien.
On se vous voit. Hein?
Oui, oui.
Non, on est pas
alors,
là.
Maurice, vous revenez de vacances.
Oui. Après ouais. un petit mois vite passé.
Ah oui, vous avez trouvé que ça passe vite.
Ça passe toujours
hein?
vite, oui.
Ah oui.
Moi, je me souviens, là, que sans dire mon âge, quand j'avais 7 ans, me dire, hey, à l'an 2000, je vais avoir 40 ans, ça n'a pas de bon sens. C'est comme si 3 ans plus tard, c'est l'an 2000.
C'est vrai. Hein?
Claquement de doigts, ça passe. Oui.
Tout à fait. Un an passant, on dirait qu'on a l'impression que c'est une fin de semaine.
Oui.
Est-ce que vous êtes allé dans votre lac Saint-Jean natal?
Oui, je me suis réconcilié un peu avec la région.
Ah oui, vous étiez en chicane?
Non, parce que les fois précédentes, il faisait pas beau. Je faisais « Ah, lac Saint-Jean, bah. Il faisait très beau la semaine où je suis allé.
Bon.
Donc, j'ai passé une semaine dans l'eau.
Avez-vous mangé des choses particulières?
Un cliché d'usage, la soupe aux gourganes, j'en mange régulièrement chez moi, donc ça va.
Oui, j'en ai jamais mangé.
Non?
Ah. Alors, un jour peut-être.
Oui.
Parce que Maurice est excellent cuisinier. C'est un excellent cuisinier.
On se débrouille.
Et c'est un excellent metteur en onde aussi.
On se débrouille.
Alors, merci d'être là. Vous allez
bonne
donc.
Merci.
Vous aussi, vous allez être là pendant les vacances de Mathieu. Et puis, vous accompagnerez Denis Martin Chabot la semaine prochaine, puisque moi, je pars en vacances la semaine prochaine. Alors, là-dessus, qu'est-ce qu'on a au menu? Il y a Marcel Dugas, notre historien en résidence, qui est de retour depuis deux semaines. Et on le retrouve aujourd'hui. Il sera donc en alternance avec André Lacombe. Marcel va nous parler de la course au mariage en juillet 1940. C'est complètement fou. Et c'est arrivé dans les années 40. Marcel va tout nous dire sur cette histoire-là. Chronique économie avec Michel Poitvin, chronique pot-pourri, où il parle de haute technologie, aussi de ce qui se passe avec les États-Unis et l'Iran en lien avec les barils de pétrole, toutes les conséquences que cette guerre-là a sur l'économie. Et puis, j'en perds la voix, nous aurons la chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qui, elle, va nous proposer deux recueils de poésie et en rediffusion 300 raisons d'aimer la Gaspésie puisque c'est le temps des vacances. C'est une chronique, c'est-à-dire une entrevue que j'avais réalisée avec Marie-Claude Duguay-Arsenault, co-autrice de ce très beau guide et ça vaut la peine d'écouter cette entrevue. On commence avec une chanteuse que vous aimez beaucoup. Elle s'appelle Charlotte Cardin.
Il y a ma main dans la fenêtre, Titanic. Il y a des choses que je comprendrai jamais, pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, Italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Thank you.
Heureusement que la musique est là pour nous faire du bien parce que les nouvelles ne sont pas très jojo, sont même dramatiques, très inquiétantes. À la une de la presse, plus incendie dans la région de Bordeaux dimanche, on voit le feu, alerte rouge feu, on voyait les flammes passer au-dessus de nos têtes près de Bordeaux. Les pompiers affrontent un feu historique qui a forcé des centaines de milliers de personnes à fuir et avec une nouvelle vague de chaleur annoncée, il menace jusqu'aux portes de la ville et ça brûle également en Espagne et ailleurs, en Ontario et même au Québec. Dialogue, dans la section Dialogue, merci pour vos mains tendues. Après une vague d'amour au Québec, le premier roman de Télisson Aurélien gagne la France. Il est en train de signer des dédicaces ou des autographes. On le voit à la une de la presse. Une autre vedette dans son domaine, c'est Félix Auger-Aliassime. Ce qui m'anime, dis-je bien, c'est d'être numéro un mondial. Une entrevue avec Félix Auger-Aliassime. C'est donc Nicolas Richard qui a eu la chance de le rencontrer à quelques jours de disputer l'Omnium Banque nationale à Montréal. Félix Auger-Aliassime sent plus que jamais l'urgence de gagner. Il aime bien le quatrième, mais il veut être numéro un et on lui souhaite surtout à Montréal. Et puis, si on se tourne vers le Journal de Montréal, difficile. Le suspect numéro un, c'est son père, victime d'une folie meurtrière. Il m'a arraché mon bébé, c'est la mère qui dit cela. L'adolescent qui aurait été tué par son père à Shawinigan dimanche avait peur d'aller chez lui en raison de ses problèmes de santé mentale et avait hâte d'avoir 18 ans pour ne plus lui rendre visite, rapporte la mère de la victime complètement anéantie. « Je ne pourrai plus serrer mon fils dans mes bras, l'embrasser, lui dire que je l'aime. Son père m'a tout enlevé. Il m'a arraché mon bébé », a confié au journal en larmes Priscilla Deschenaux, la mère de Ryan Deschenaux. L'adolescent de 16 ans aurait été tué dimanche par son père, Philippe Benoît, avant que ce dernier ne prenne la fuite. Depuis, la Sûreté du Québec traque le fugitif dans la municipalité de Lac-aux-Sables, à 40 km à l'est de Shawinigan, où la voiture de Lavergne a été retrouvée. Philippe Benoît. C'est la voiture de Mme Lavergne qu'il conduisait. Atteint de schizophrénie, l'homme de 41 ans serait en possession d'une arme blanche. « Mon fils était un garçon formidable. Il venait de finir son secondaire 5. Il s'en allait étudier en soins infirmiers au cégep. Il aimait ça, aider les autres. Il était toujours là pour les autres. Il avait un grand cœur », a dit sa mère, la voix complètement brisée. « Il aimait la musique, le basket, le sport et les jeux vidéo. » Alors, c'est difficile et on compatit avec cette mère qui est complètement dévastée et on la comprend. Dans Le Devoir, à la une du Devoir, tannée des chantiers, la ville consulte les citoyens dans l'espoir de limiter les répercussions des travaux. Promenade dans le bruit et la poussière, certains disent. On a l'impression qu'on c'est toujours à recommencer. Préoccupée par la multiplication des chantiers, la ville de Montréal vient de lancer une vaste consultation sur les répercussions des travaux sur les gens qui fréquentent le centre-ville, résidents, travailleurs, commerçants, visiteurs et touristes. Le Devoir a suivi sur le terrain une équipe de l'Office de consultation publique de Montréal qui a interrogé les passants près de deux chantiers. Un après-midi de semaine, les opinions des gens sondés oscillaient entre acceptation, résignation et exaspération. Et puis, une autre manchette, un autre titre à la une du Devoir de ce 28 juillet 2026. Une garderie ferme ses portes à 10 jours d'avis. Ariane Godbout qui signe l'article. Des parents d'enfants sont désemparés après avoir appris, avec un préavis de seulement 10 jours, que la garderie privée de leurs enfants sur le plateau Mont-Royal fermera ses portes. Une situation illégale qui survient dans un contexte où de nombreux milieux de garde non subventionnés au Québec éprouvent des difficultés financières. Le 20 juillet dernier, vers 18 heures, les parents dont les enfants fréquentent la garderie privée Kido 2 sur le plateau ont eu une bien mauvaise surprise. Un courriel envoyé par les directrices de la garderie les informait qu'à partir du 31 juillet, l'installation fermerait ses portes en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. On était vraiment bouleversés, a raconté un parent qui a demandé l'anonymat pour éviter d'éventuelles représailles de la part de la garderie. 10 jours, ce n'est pas acceptable. C'est peut-être commun dans le système, mais si c'est le cas, il faut changer ses pratiques. Du côté du ministère de la Famille, on a confirmé que la garderie Kido 2 a informé le ministère de sa décision de cesser ses activités par courriel le 21 juillet 2026 avec une date de fermeture prévue le 31 juillet 2026. Ce faisant, le milieu de garde ne respecte pas le délai minimal de 90 jours entre l'avis au ministère et l'arrêt de ses services et il s'expose à des amendes allant de 2 500 à 12 500 $.
On vient d'entendre « Rêve américain » par Jonathan Personne.
Oui, comme on a de la difficulté à joindre Marcel Dugas, on va vous présenter un peu plus tôt prévu cette entrevue sur la Gaspésie, 300 raisons d'aimer la Gaspésie, avec Marie-Claude Duguay-Arsenault, co-autrice que je recevais en mars dernier.
Si j'avais un char de Stephen Faulkner.
Oui, alias Cassonade, sortie demain d'un guide, je pense que c'est plus qu'un guide, elle va nous en dire davantage, Marie-Claude Duguay-Arsenault qui est avec nous en studio. Bonjour Marie-Claude.
Merci de me recevoir.
Mais ça nous fait vraiment plaisir. Vous avez écrit donc avec Manon Lapierre ce beau livre qui sort demain aux éditions de l'Homme, 300 raisons d'aimer la Gaspésie. 300, c'est pas rien. Alors, ça vous vient d'où? Cet amour de la Gaspésie, vous êtes née là, à Grande-Rivière, si je ne m'abuse.
Effectivement, donc je suis une fière Gaspésienne de naissance. Et puis,
est-ce que vous y habitez toujours?
En fait, j'ai le privilège d'y passer plusieurs semaines par année parce que je suis copropriétaire de chalets locatifs à Percé. Donc, directement avec la vue sur le rocher, donc je reçois chaque été... plusieurs touristes qui viennent nous voir et puis dont ça fait plusieurs années que je partage mes coups de cœur de la Gaspésie. Donc, c'était prédestiné.
Oui, les chalets du domaine du capitaine.
Exactement.
Je suis allée faire un petit tour sur le site Internet pour en savoir davantage parce qu'il faut dire que ce livre-là nous donne vraiment envie d'aller, de retourner, de découvrir la Gaspésie si ce n'est déjà fait. Mais comment l'idée de ce livre consacré à... vos 300 coups de cœur, finalement, en Gaspésie est né avec votre... C'est une amie de longue date, Manon?
Oui, en fait, l'histoire est intéressante parce que 300 raisons d'aimer, c'est une collection qui a parti il y a quelques années mm-hmm. avec la journaliste Marie-Joëlle Parent. Donc, moi, j'avais sur ma table à café le livre et lors d'un petit matin, je me suis dit, il faut écrire 300 raisons d'aimer la Gaspésie. Alors, et 300 raisons d'aimer la Gaspésie, c'est ce qu'on appelle le road trip idéal au Québec. Et on va se le dire que de voyager au Québec, ça n'a jamais été aussi bien ressenti. Donc, Manon Lapierre, alias La Petite Bête, en fait, qui est une YouTubeuse culinaire, c'est ma grande amie depuis plus de 30 ans.
Ah oui!
On est allé à l'université ensemble. Et puis, on s'était toujours dit qu'on allait faire un road trip ensemble. Et comme nous sommes les deux... amoureuse de la Gaspésie, on s'est dit, c'est le parfait moment. Quoi de mieux que d'écrire un guide où on vient répertorier nos coups de cœur de la Gaspésie, autant d'un point de vue culinaire, hébergement, les excursions à faire, où aller marcher, des...
Concentré plus sur l'été, hein?
On est concentré plus sur l'été simplement parce que la plupart, en fait, le gros pourcentage de la population qui visite la Gaspésie, c'est l'été parce que les commerces sont principalement ouverts là, de septembre à octobre, de mai à octobre. Donc, c'est la saison idéale pour aller visiter la Gaspésie. Donc,
vous n'avez pas peur d'attirer trop de monde, d'être victime de sourd-tourisme, comme c'est déjà arrivé là, pendant la pandémie?
La beauté de la Gaspésie, c'est que c'est un grand territoire. On parle vraiment d'une péninsule de 885 kilomètres. Ce qui est beau en Gaspésie, c'est que même pendant les périodes très achalandées, par exemple, je prends exemple juillet, c'est certain qu'en plein centre-ville de Percé, il va y avoir beaucoup de monde. Mais les territoires sont tellement vastes que quand on veut profiter des espaces verts, d'aller à la plage, d'aller faire des randonnées, on ne ressent pas du tout cet effet-là de surcharge de population. Et c'est ça qui fait en sorte que de voyager en Gaspésie, c'est plaisant.
La question cliché, là, quand on vous demande, combien ça prend de temps à faire le tour de la Gaspésie? Qu'est-ce que vous dites?
Je vais répondre avec la plus belle expression gaspésienne. En Gaspésie, on prend le temps de prendre notre temps. Alors, plus vous allez prendre de temps, plus vous allez avoir un beau séjour. Bien sûr, je ne recommanderais pas à personne de faire le tour de la Gaspésie en moins de 5 jours ou une semaine.
C'est pas une course, là.
C'est pas une course. Puis ce qui est intéressant dans le livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie », c'est qu'il est écrit par région. Donc, si on va visiter, par exemple, une région, alors dans le livre, c'est très bien expliqué chaque adresse et chaque coup de cœur de cette région-là.
Il y a du travail derrière ça, là. Ça vous a pris combien de temps, encore ma question, combien de temps pour faire ce road trip-là et
oui.
rédiger ce livre-là? Parce qu'il y a toute une recherche, là. Et
oui.
il y a des photos aussi qui sont renversantes, très, très belles.
Merci, ouais. c'est gentil. En fait, on a passé notre été au complet.
L'été passé.
Okay. Je dirais qu'en termes d'itinéraire, on y a mis environ 3 semaines vraiment à fouiller et à découvrir.
3 semaines pour 300 raisons.
Trois semaines pour 300 raisons. Et tout le long de la route, on a rencontré des Gaspésiens qui, eux, nous ont donné leur coup de cœur.
Oui.
Donc, c'est venu donner de l'essence à la liste qu'on avait déjà déterminée.
Est-ce que ces rencontres-là étaient hasardeuses ou vous les aviez planifiées?
Extraordinairement hasardeuse.
Wow!
Et comme
la magie,
les Gaspésiens nous accueillent sans prendre rendez-vous, prennent le temps de nous recevoir, de nous expliquer leur commerce.
La parlure aussi.
On a une entrevue. En fait, ce qui est intéressant dans le livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie », c'est qu'on a une vingtaine d'entrevues de Gaspésiens, des pêcheurs, des artistes, des historiens. Il y a beaucoup d'histoires de la Gaspésie dans ce livre-là. Et en parlant des parlures, Fernand Alain, dans le secteur de Paspébiac, nous parle de l'importance des accents d'un village à un autre.
Ça, c'est vraiment intéressant.
Et c'est vraiment intéressant de comprendre, en fait, ce qu'il dit, ce n'est pas mal parler que
d'avoir
des accents. Mais bien au contraire, ça vient d'une richesse de la provenance des gens du village.
Il dit on peut sentir l'émotion, par exemple, dans la façon de dire « papa » ou « maman ».
Oui, on dit « papa » et « maman ». Et en fait, en Gaspésie, on a beaucoup de « chère ».
Oui. «
Hey, chère ».
Un peu comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui.
Hein?
Donc, c'est tous des beaux petits mots d'amour.
Oui. On roulait air à Bonaventure, entre autres. Mais ça fait partie là, de votre rencontre avec Fernand Alain.
Exactement.
Qu'on voit dans votre livre. Il y a Daniel Boucher aussi. Je pensais qu'il était originaire de la Gaspésie, mais non. Il a des origines gaspésiennes.
Son père a toujours habité à Mont-Louis.
Oui.
Donc, exactement.
Mais lui, il ne pensait pas s'établir là temps plein.
Il ne pensait pas s'établir.
Et rencontrer sa douce.
C'est une belle histoire, effectivement, de Daniel Boucher qui nous raconte à quel point il a appris à construire de ses mains la maison qu'il habite présentement dans le secteur.
Avec d'autres Gaspésiens.
Avec ses
cousins.
Il y a
beaucoup d'entraide. Ouais,
il y a beaucoup d'entraide. Et c'est ce qui est beau. Et en fait, on invite les gens, c'est un excellent timing parce que le livre va être en librairie demain, le 18 mars. Donc, tous ceux qui souhaitent planifier leurs vacances en Gaspésie cet été, c'est un excellent timing. Il faut réserver les hébergements d'avance. Et même si vous n'allez pas en Gaspésie, ne serait-ce que de feuilleter ce livre-là,
voyage.
Ça nous donne le goût parce qu'il y a beaucoup d'inspiration.
Ça nous donne le goût de plein de choses, notamment de manger des guédilles au homards.
Si on est gourmand, là, ça donne l'appétit.
Vous nous donnez vos coups de cœur, vos adresses coups de cœur?
Certainement. Donc, on a goûté à peu près toutes les guédilles au homard.
Où faut-il aller pour en manger
On a eu un coup de cœur à la cantine de la Seigneurie, du côté nord. On a eu beaucoup de
C'était généreux aussi au homard.
C'était généreux. Donc, on a goûté beaucoup d'adresses culinaires. Manon Lapierre, la petite bête, en fait, son expertise est au niveau de la cuisine. Hein. Sur sa chaîne YouTube, elle nous fait saliver. Donc, elle a été vraiment...
Vous en avez bien profité.
Oui, parce que la Gaspésie a beaucoup à offrir en termes de fruits de mer, en termes de poissons. Donc, on est dans la fraîcheur. Donc, on est...
Et vous, Marie-Claude, vous êtes originaire de Grande-Rivière.
Oui.
Est-ce que ce projet-là d'écriture du livre « 300 raisons d'aimer la Gaspésie » vous a fait redécouvrir votre propre région?
Vraiment, oui. Oui. J'ai découvert des endroits. Quand on dit dans le livre que des fois, il faut sortir de la 132 et prendre des chemins de vers des rangs, le secteur qui m'a donné le plus de frissons, ça a été les plateaux à Matapédia.
Oui. Alors là, pourquoi?
Parce qu'on se sent complètement, c'est comme si on est en Irlande où il y a des couleurs, des champs à perte de vue, de blé, des couleurs.
Et là, il y a le fleuve, mais il y a aussi la forêt, les montagnes.
En fait, en contrebas, on voit la rivière et on voit les montagnes derrière.
Tu dis le fleuve, vous dites la mer.
On dit la mer. Du côté nord de la Gaspésie, c'est le fleuve Saint-Laurent. Ouais. Il y a la baie des Chaleurs, on dit la mer. L'important, c'est qu'on soit inspiré. Ouais. Mais des coups de cœur dans le livre, on en a trouvé. Même si on est gaspésien.
Que vous avez aussi découvert.
Oui, tout le long de notre périple, parce qu'on prenait le temps de prendre le temps, de prendre des petits chemins qu'on ne connaît pas et de se laisser surprendre par des lieux. Et c'est ce qui fait que c'est intéressant de prendre le temps de voyager aussi.
Prendre le temps, oui. C'est de cette manière-là qu'on apprécie le plus qu'est-ce qu'on est en train de vivre.
Exactement.
Et pour quelqu'un qui visiterait la Gaspésie pour la première fois, là, ça serait quoi votre conseil de base?
Mon conseil de base, premièrement, réserver ses hébergements d'avance, si on veut s'assurer d'avoir vraiment de le faire sans stress.
Ouais.
Deuxièmement, d'avoir le guide avec vous. Pour vous, parce qu'en fait, on vous tient par la main à travers 885 kilomètres. Et d'aller chercher vos coups de cœur à vous également. Mm-hmm. De parler aux Gaspésiens. Les Gaspésiens, quand vous allez dans des cafés, quand vous allez dans des commerces, c'est le meilleur endroit pour vous laisser guider. Les Gaspésiens vont être généreux avec vous. Alors... voilà.
Et comme dit Claudine Roy, qui est entre autres fondatrice des Traversées de la Gaspésie, qui signe la préface, la Gaspésie ne se visite pas, elle se vit.
Oui.
Bravo pour ce livre qui est vraiment très, très bien fait. Marie-Claude Dugarcenot avec nous en studio et Manon Lapierre avec qui elle a écrit ce beau livre, 300 raisons d'aimer la Gaspésie aux éditions de l'Homme. Merci. Bon, alors voilà pour cette belle entrevue qui vous a peut-être donné envie de vous rendre en Gaspésie. Peut-être que vous y êtes déjà. En tout cas, notre chroniqueuse livre y est. On va la rejoindre un petit peu plus tard au cours de cette émission.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et merci beaucoup de le faire. Mea culpa, j'ai donné le mauvais numéro de téléphone à Maurice, le numéro de téléphone de Marcel Dugas. Mais là, tout est arrangé et Marcel sera avec nous après la chronique de Michel. Michel Poitvin, bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Alors, chronique économie avec vous. On commence avec, vous avez préparé un pot pourri de nouvelles, le secteur des hautes technologies qui est en plein émoi depuis hier après-midi.
Oui, on parle vraiment de la bourse, mais c'est peut-être des choses qui pourraient intéresser les auditeurs. Là, puis je vous mets en contexte, depuis plusieurs mois, la bourse, je dirais mondiale, là, pas seulement aux États-Unis, mais surtout aux États-Unis, mais ailleurs aussi, est portée par la haute technologie, puis notamment l'intelligence artificielle. Alors, tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, est-ce que c'est une bulle, là? Je ne sais pas, mais disons que les actions faisaient très bien. Mais en même temps, les investisseurs récemment étaient un peu plus prudents. Ils se demandaient est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment remplir ses promesses de transformer nos économies puis rapporter des profits faramineux. Les gens se posaient des questions, puis on avait une grande volatilité, puis c'était pas rare de voir... une journée, l'action d'une compagnie augmentait de 7-8% alors que le lendemain, elle baissait de 5, 6 ou même plus. Et qui ces firmes dans la haute technologie ou reliées à l'intelligence artificielle? Bien, il y en a qui produisent ce qu'on connaît ou plusieurs connaissent, qui produisent des logiciels comme ChatGPT. Ça, c'est OpenAI. Claude, qui est un autre... logiciel qui est produit par Anthropic ou Gemini par Google, et puis il y en a d'autres. Alors ça, c'est le premier groupe d'entreprises. Un autre groupe, c'est ceux qui fabriquent les puces qui permettent d'entraîner l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, comment elle apprend? Bien, c'est en parcourant le web, en lisant des millions et des millions de pages et tout. Puis ça prend des puces très puissantes pour les ordinateurs, là, qui font que l'intelligence artificielle, avec toute cette information-là, en guillemets, apprend.
Les entraîner à faire du plagiat, finalement.
Oui, bon, ça, c'est un autre, ça
pourrait être un autre débat. Sujet, là,
mais,
oui, oui.
Mais effectivement. Donc, ces puces-là, elles sont fabriquées. Et puis, pour les fabriquer, on utilise des machines, le petit terme technique, des machines de lithographie par immersion dans l'ultraviolet profond, qu'on appelle DUV. Donc, on se sert de l'ultraviolet, là, puis demandez-moi-en pas plus, là, pour mettre des milliards de transistors sur des minuscules surfaces qui sont les puces. Et puis, jusqu'à maintenant, dans le monde, il y a seulement une firme néerlandaise, ASML, qui est capable de fabriquer ces machines de lithographie.
Ah, j'aimerais voir un reportage là-dessus.
Oui, vous avez vu, vous aimeriez le voir?
Non, j'aimerais ça.
Oui, c'est un peu intriguant, on se demande comment ça fonctionne, là. Et puis, ce qui arrive, c'est que l'Occident, surtout mené par Washington, a imposé des sévères restrictions à ASML, lui interdisant de vendre ces machines-là à la Chine pour préserver l'avance nord-américaine de l'Occident sur les Chinois dans le domaine de la haute technologie, notamment à l'intelligence artificielle. Puis là, pourquoi j'en viens, donc toute cette mise en contexte, j'en viens à l'émoi là, depuis hier après-midi. Il y a un journal chinois qui a annoncé qu'une compagnie de Shanghai, Yulianxing, le nom de la compagnie, va débuter la production industrielle de ces machines DUV, à ultraviolet. Et ces machines-là sont suffisantes pour produire les puces avancées. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que les Chinois vont être capables de rattraper le retard technologique et puis que les firmes nord-américaines vont se faire rattraper par les firmes chinoises. Et là, comme le marché était déjà un petit peu craintif, il s'en fallait pas de plus là, pour qu'il y ait une dégringolade en bourse de ces compagnies. Par exemple, Samsung qui fabrique des puces, un géant sud-coréen, a perdu 12% à la bourse hier. Nvidia, qu'on connaît aussi, ou probablement vous avez entendu parler, a perdu 5%. Mm-hmm. Je le regardais ce matin, c'était pas beaucoup mieux. Là, le Nasdaq perd un petit peu moins de 2%. Puis un fonds mutuel que je suis, là, SOXX, qui est une espèce de fonds mutuel des entreprises qui produisent des puces, est en baisse de 5,5%. Puis là, toutes les firmes individuelles, même dans le domaine quantique, là, chutent là, entre 5 et 10%.
Oui, on comprend les mois.
Oui, ça va être à suivre ce qui va arriver, là, mais avec les Chinois qui nous rattrapent, peut-être pour les consommateurs, parce que c'est une bonne nouvelle, il va y avoir plus de concurrence, mais en même temps, ce qu'on a remarqué sur les modèles d'intelligence artificielle chinois, c'est que, peut-être sans surprise, ils sont censurés ou biaisés. Il ne faut pas leur demander des questions sur la place Tiananmen, par exemple, ou des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont nerveux ce matin avec ce qui se passe depuis hier après-midi.
Parlant de système nerveux un petit peu éprouvé, le président Trump a dit qu'il était confiant qu'un accord surviendrait avec l'Iran.
Oui, les hostilités ont cessé complètement, là, mais on a une espèce de petite trêve. Et puis justement, Trump a dit qu'il était confiant qu'un accord surviendrait. Mais en même temps, j'ai lu que les Iraniens disent qu'eux ne sont pas en négociation.
Non, c'est ça.
Ça ne sera pas la première fois que les deux...
Et en plus, aujourd'hui, il reçoit Benjamin Netanyahou. Je m'excuse, oui, Netanyahou, qui va peut-être l'encourager à...
Peut-être,
mais... À ne pas s'accorder justement avec l'Iran.
Oui, clairement, c'est ce qu'Israël veut, mais en même temps, je pense que Trump commence à être un peu moins chaud là, à l'égard de Netanyahou, effectivement. Et puis, il n'est pas, Israël n'est pas porté dans le cœur de tous les gens de MAGA là, derrière Trump. Là. Alors, on va voir comment, comment vont se dérouler ces.
Cette rencontre-là.
Mais il y a déjà un impact sur le prix du baril de pétrole. Là, la semaine dernière, il était monté un petit peu en haut de 90 $ avec la reprise des hostilités, mais là, il se transige plus autour de 80 $. Est-ce la bonne foi? Est-ce que ça va être enfin la signature d'un accord de paix? On ne sait pas, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour les Américains. Puis ça nous amène peut-être au troisième sujet dont je voulais parler. Demain, la Banque fédérale américaine va annoncer, faire son annonce de taux d'intérêt. Depuis 5 mois, l'inflation aux États-Unis est en haut de 3 %, puis on a même eu il y a 2 mois un pic en haut de 4 %. Puis leurs cibles, ils veulent vraiment que l'inflation soit plus autour de 2, peut-être 2,5 %. Donc, on est nettement en haut de la cible, puis ça dure. Puis là, le danger, c'est que là, de plus en plus, il y a des attentes inflationnistes dans l'économie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des attentes inflationnistes? Bien, les travailleurs s'attendent à ce qu'il y ait de l'inflation, ils demandent des augmentations de salaire. Les entreprises s'attendent à payer des salaires plus élevés, elles augmentent leur prix. Ça, ça alimente l'inflation. Vous voyez, c'est une spirale là, qui peut mener à des taux d'inflation plus élevés. Donc, on va voir l'annonce demain. Les experts pensent que probablement que les taux d'intérêt vont rester les mêmes, surtout avec cette nouvelle là, que le baril de pétrole est revenu autour de 80, puis que ça se calme en Iran, on dit ben, peut-être c'est une bonne nouvelle, puis les pressions inflationnistes de l'énergie vont diminuer dans les prochaines semaines. Alors probablement qu'ils vont laisser les taux inchangés, mais on s'attend à ce que possiblement en septembre, à l'annonce suivante, il y ait peut-être une augmentation des taux d'intérêt là, si l'inflation continue à rester en haut de 3 %. Donc, ça va être à voir demain. Puis peut-être un autre facteur, là, on en parle moins dans les journaux, mais là, avec faire un lien avec notre premier sujet, avec tout le secteur des technologies qui baisse, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont touchés. Puis parfois, il y a des effets de la bourse sur les comportements de consommation. Là. Si votre portefeuille à la bourse va bien, ben, vous êtes de bonne humeur, peut-être vous dites, oh, on peut changer d'auto, on va changer d'électroménager, on va investir.
On fait des projets.
On va, pardon?
Je dis, on fait des projets.
On fait des projets, on consomme plus, mais là, avec la bourse qui va moins bien, c'est possible qu'il y ait des consommateurs qui hésitent à dépenser autant. Et donc, ça serait bon pour, si un petit ralentissement de l'économie dû à ça, mais ça va limiter, si vous voulez, les pressions inflationnistes. Donc, c'est un autre facteur qui fait que, d'après moi, les taux ne changeront pas demain, mais à voir pour le restant de l'année. Puis, on se souviendra que, je pense qu'on avait parlé, que le président Trump avait nommé Warsh, le nouveau directeur, en pensant que, parce qu'il trouvait que l'ancien directeur de la Banque centrale, de la Fed, il trouvait qu'il ne baissait pas les taux d'intérêt assez vite. Il a nommé Warsh, mais Warsh, il a l'air de faire son affaire et d'être assez rigoureux. Donc, il n'est pas là nécessairement pour faire plaisir à Trump. Là. Je pense que lui, il veut préserver l'indépendance de la Banque fédérale, puis s'il faut qu'il augmente les taux, il va les augmenter.
On aime ça de même.
C'est une bonne nouvelle.
Oui. Merci beaucoup, Michel, puis je vous dis à la prochaine, parce que moi, la semaine prochaine, je vais être en vacances, mais au quotidien continue avec Denis Martin Chabot. Nous, on va se retrouver le 1er septembre.
Bon, bien, profitez bien de vos vacances. Je vous souhaite du beau temps.
Vous êtes bien aimable, et puis, bien, vous, bonne suite d'été.
Merci bien, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
C'est l'été, j'ai l'oiseau mouche au bord du cœur, j'ai la sève au bout des lèvres et un collage impressionniste de couleurs dans les yeux. Quand les fleurs folles à toute allure débordent des vieux mots latins, qu'on avait construits comme des murs pour les cerner, mais qui ne disent rien, c'est l'été. Le fond de l'air, juste assez frais, possède un vent poli et sage qui me replace les cheveux, toujours à mon avantage. Tous les bourdons s'expriment en zèle, grâce à eux la ville n'est jamais si laide. Et chaque printemps me rappelle qu'il est plus puissant que n'importe quel homme. Mr. Freeze, ovarian, je te consomme jusqu'à l'overdose. Mr. Freeze, ovarian, je te consomme jusqu'à l'overdose. De glucose, de glucose, je veux que tu m'assommes de couleur. Il faut que tu m'assommes de toutes tes couleurs. Je veux que tu m'assommes de couleurs pour tomber enfin en fleurs. C'est l'été, je sors, je vais flatter les bourdons. Ils m'ont donné leur permission spéciale, mais quelque chose est arrivé en mon absence. Quelle horreur. Mon proprio veut couper l'arbre dans lequel habite un village d'oiseaux pour agrandir mon stationnement. Mais j'ai même pas de char. Qu'est-ce que tu fais, moi? C'est l'été. Y'a des spirales qui se développent dans les yeux fous des nyctalopes. Et tout s'enroule dans la nuit en suivant la loi de Fibonacci. Mr. Freeze, au Valium, je te consomme jusqu'à l'overdose. Mr. Freeze, au Valium, je te consomme jusqu'à l'overdose. De glucose, glucose, je veux que tu m'assommes de couleur. Il faut que tu m'assommes de toutes tes couleurs. Je veux que tu m'assommes de couleurs pour tomber enfin en fleurs. C'est l'été et y a les petits oiseaux gaffeurs qui chancellent sur leurs petites pattes avec leur tête qui fait big boy. Même s'il n'y a pas de remède à la violence, que l'oiseau torture la libellule et que le chat torture l'oiseau pendant que l'humain lui met des petits chandails de chat. C'est l'été, c'est beau même si c'est carnivore. C'est l'amour brut, c'est la beauté, c'est animal.
Mr. Freeze, au Valium par Alphonse Bisaillon.
Très belle chanson. Merci, Maurice. Et on rejoint maintenant Marcel Dugas un petit peu plus tard que prévu. J'avais le mauvais numéro de téléphone, Marcel, mais ça n'arrivera plus. Bonjour.
Bonjour. Ben, c'est le genre de choses qui arrivent.
Bien oui, dans les meilleures familles. Alors aujourd'hui, parlant de famille, vous nous parlez d'un week-end où on a battu tous les records en termes de mariages célébrés au Québec, mais il faut dire que les couples avaient une bonne raison de vouloir se marier à ce moment-là.
Hélène, je vous lis ce que le journal La Patrie en disait. Cupidon a frappé le plus dur coup de toute sa carrière, et ce coup a eu des répercussions à travers tout le Canada. Le petit dieu ce matin doit se reposer, et il se reposera longtemps, car les mariages seront rares à l'horizon pour plusieurs mois à venir. Plusieurs agences matrimoniales ferment leurs portes aujourd'hui. On a dit que c'était une course au mariage qui s'était produite au cours de la fin de semaine des 13 et 14 juillet 1940. On l'a qualifié de ruée vers les églises et même de blitzkrieg d'amour. C'est probablement la première et la dernière fois que ces deux termes-là étaient utilisés ensemble. Le blitzkrieg, c'est la méthode de guerre éclair que les Allemands avaient utilisée pour conquérir une bonne partie de l'Europe en 1939 et 1940. Mais l'histoire de ce blitzkrieg d'amour débute en réalité pendant la précédente guerre, donc la Grande Guerre de 1914, le Parti conservateur du Canada de Robert Borden avait imposé la conscription, donc on obligeait les hommes à aller se battre en Europe, qu'ils le veuillent ou non, et les Québécois, très majoritairement opposés à la conscription, ne lui ont jamais pardonné, pas plus qu'à son parti longtemps après qu'il eût quitté la scène. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le premier ministre libéral, cette fois-là, Mackenzie King, s'est engagé à ne jamais faire la conscription pour le service extérieur. C'était une promesse qui s'adressait surtout au Québec, qui était le noyau dur du vote libéral. Il a dû revenir sur son engagement. On a organisé un plébiscite en 1942. Et le Canada anglais l'a libéré de sa promesse contre l'avis du Québec, à qui on avait fait la promesse. C'est un peu tordu comme histoire, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Mais avant le plébiscite, donc à l'été 1940, King fait voter la loi sur la mobilisation des ressources nationales. L'Allemagne, à ce moment-là, allait de succès en succès. On venait de vaincre la France avec une rapidité qui avait sidéré tout le monde. On se disait que la Grande-Bretagne était la prochaine sur la liste. Le Canada envoyait des volontaires se battre, mais la pression était forte pour qu'on en fasse plus. La loi sur la mobilisation des ressources nationales prévoyait notamment l'enregistrement des hommes célibataires à partir de 21 ans qu'on soumettrait à un entraînement militaire de 30 jours. C'est passé à 4 mois par la suite. Au départ, c'était 30 jours. Et on pouvait ensuite les assigner à une unité de milice et les utiliser pour la défense du territoire canadien. Il n'y avait pas de conscription pour le service outre-mer à ce moment-là. C'est venu après le plébiscite dont je vous parlais il y a un instant. Le gouvernement a annoncé que les hommes mariés seraient placés au bas de la liste de cette mobilisation-là. Et on a fixé une date limite, le 15 juillet. Seraient considérés comme mariés aux fins de l'enrôlement pour service militaire au Canada tous les hommes qui s'étaient passés la corde au cou avant le 15 juillet 1940. On annonce ça aux communes dans la soirée du 12 juillet, le temps que les radios et les journaux rapportent la nouvelle, la plupart des gens l'ont appris samedi matin le 13. Ça laissait donc 2 jours aux hommes qui souhaitaient éviter d'être enrôlés pour se marier, et cette fenêtre s'est transformée en une ruée vers les églises comme on n'en avait jamais vu avant, et on n'en a probablement jamais revu par la suite. Et donc, ça a été vraiment, comme je le disais, un blitzkrieg, une ruée vers les églises. Malheureusement, j'ai bien cherché un bilan complet, j'en ai pas trouvé, c'est très dommage, mais les chiffres donnent quand même une bonne idée. On a parlé qu'il y avait eu 300 mariages à Montréal. Selon moi, c'est trop peu. Les journaux du moment nous donnent des chiffres par paroisse, 40 à tel endroit, 35 ici, 25 là. En additionnant les quelques paroisses mentionnées, on arrive déjà presque à 300, donc c'est une estimation très conservatrice, selon moi. On rapportait aussi 195 couples mariés à Québec et dans les environs, 150 dans la région de Hull, 125 à Sherbrooke, 95 à Drummondville. Je pourrais continuer comme ça. Ouais. Mais partout ou presque, on nous disait qu'il s'agissait de records pour une aussi courte période.
Et comment a-t-on fait pour marier autant de personnes en si peu de temps? Parce que non seulement une cérémonie de mariage, bien, ça prend quand même du temps, il y a des formalités à respecter. On ne peut pas juste se présenter à l'église en disant « j'aimerais épouser cette personne ».
Bien, il y a une chose qui est frappante dans tout ce que j'ai lu, c'est l'attitude du clergé catholique. C'est une institution, on va se le dire, qui au fil des siècles ne s'est pas toujours fait remarquer par sa grande flexibilité. Mais pendant cette fin de semaine de magie-là, il n'y avait pratiquement aucune règle qu'on n'était pas prêt à contourner. On a expédié les formalités qui menaient au mariage, comme la publication des bans. On a vu des mariés arriver à l'église sans anneaux, sans témoins. Il n'y avait rien de tout ça qui dérangeait. On a marié des gens au téléphone.
Il y a eu des mariages téléphone. De
groupe. Oui, absolument. Il y avait la mariée était dans l'église.
Oui, allô.
Son prétendant était en Abitibi quelque part. On a eu son consentement au téléphone. Et pendant ces 2 jours-là, c'était suffisant. Il y a eu des mariages de groupe. À certains endroits, on mariait simultanément dans l'église et dans la sacristie. Et on a procédé à des unions toute la journée du dimanche jusqu'à quelques minutes avant minuit. Mais c'était pas des vrais mariages. Comprenons-nous bien. Il n'y avait pas de messe. On n'avait pas le temps. On bénissait l'union et on passait au suivant. Je vous raconte comment ça s'est passé à Trois-Rivières, où 130 couples ont été mariés. C'est samedi soir que commença cette vague de mariages et quelques mariages furent bénis dans le cours de la soirée, tandis que plusieurs autres hâtèrent la date de leur mariage et payaient les dispenses nécessaires pour la publication des bans à la grande messe du dimanche pour se marier dans l'après-midi. D'autres publièrent les bans aux vêpres seulement et se marièrent dans la soirée. Les vêpres, c'est une cérémonie religieuse qui était célébrée fin d'après-midi, début de soirée. Il y a même un couple qui s'est présenté à l'évêché à 10h30 le dimanche soir. Ils ont été mariés 1 heure plus tard.
Comme à Vegas.
Mais c'était presque ça. On n'avait jamais vu des curés aussi accommodants. Et dans les sections mondaines des journaux des semaines suivantes, on disait que beaucoup de couples s'étaient mariés dans la plus stricte intimité, les 13 et 14. On a vu ça beaucoup. On n'avait pas le temps de réunir la parenté ou quoi que ce soit. C'était « mariez-vous maintenant, célébrez plus tard ». On voyait aussi des cas de « monsieur un tel, madame un tel se sont mariés le 14 ». Ils avaient annoncé une date pour le 23 de ce mois, mais on a changé la date de la cérémonie et on en profitait dans l'annonce pour dire aux gens qui avaient reçu un faire-part pour le 23 qu'ils étaient invités à une réception à la date prévue. On faisait juste sauter la partie église, venez directement à la réception. Bon. Pour le reste, ça se passe comme prévu.
Au moins, on cancellait pas, on annulait pas la fête.
Oui, voilà. Mais surtout si on avait déjà payé pour. Là, oui. C'était un peu gênant.
Alors, est-ce qu'on sait qui était tous ces Québécois, toutes ces Québécoises qui se sont épousées en quatrième vitesse cette fin de semaine-là? On avait quand même pas plusieurs centaines de couples qui avaient déjà la date, la robe, les anneaux, les faire-part envoyés et qui pouvaient juste devancer la date du mariage.
Ah, je peux pas vous donner de proportion ou de pourcentage de la situation dans laquelle les couples se trouvaient. Je pense pas que cette étude-là a été faite, et c'est très dommage, mais on devait retrouver un large éventail de situations. Des gens en couple où monsieur se décidait pas à faire la grande demande et là, soudainement, il a trouvé la motivation nécessaire. Des couples qui étaient encore tôt dans leur fréquentation qui ont décidé de brûler les étapes. D'autres qui pensaient se marier éventuellement, on pourrait faire ça dans un an quand j'aurai fini mes études, qui se rendaient compte qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre. Il y a aussi eu un film tourné en 1959 qui s'intitulait « Il était une guerre » qui traitait notamment de cet épisode-là. Et le personnage principal, lui, voulait à tout prix éviter le service militaire. Il a demandé cinq femmes en mariage pendant le week-end et s'est fait dire non chaque fois. Oh. Et juste comme il avait perdu espoir, il a remarqué la voisine qui l'aimait en silence depuis longtemps et il a décidé que c'était mieux que rien. Et c'est une histoire, évidemment, mais il y a sûrement eu des cas plus ou moins comme celui-là qui ont inspiré le film. Est-ce que ça a fait des mariages heureux? Pas nécessairement. Mmh. D'autant plus qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, on se marie pour la vie.
Marcel, je vous arrête parce que dans vos notes, vous avez écrit que la voisine était jouée par Hélène Loisel, une actrice qui est formidable.
Tout à fait.
Ça donne envie de voir le film.
Je pense que c'était un de ses premiers grands rôles. Mais il est disponible sur le site de l'ONF.
Ah,
si
bonne...
jamais il y en a que,
merci.
Que ça
intéresse. Bonne suggestion. Mais donc, il était une guerre.
Voilà. Donc, mais comme je le disais, on peut bien décider de consacrer un mariage utilitaire, de contracter, dis-je bien, un mariage utilitaire avec la première venue pour éviter le service militaire. On allait peut-être devoir passer les 50 prochaines années avec elle ou avec lui. C'était un pensez-y bien. Et beaucoup de gens qui se sont mariés n'étaient pas prêts à le faire. C'était très improvisé. Les bijouteries ont été prises d'assaut. Ces magasins ont fait de nombreuses ventes au cours de la journée de dimanche, ainsi que plusieurs autres magasins de marchandises pour dames ou pour hommes qui, sans être ouverts officiellement, ont fait des ventes pour permettre aux couples de compléter leur toilette nuptiale parce que le dimanche, tous les magasins étaient fermés en 1940. Faut pas l'oublier.
Ouais.
Donc, encore là, d'autres entorses au règlement. C'était vraiment un week-end à nul autre pareil. Et le temps file, mais je veux terminer sur une anecdote. Il y a eu plusieurs anecdotes cocasses qu'on nous a racontées. Celle-là vient du journal Le Canada. On nous dit « Un vicaire d'une paroisse de l'île de Montréal dut attendre plus de 3 heures dimanche soir, donc dimanche soir le 14, pour bénir un mariage. Une jeune fille avait 2 prétendants, un ancien et un nouveau. Dès que la nouvelle du règlement sur le célibat arriva en ville samedi matin, la mère de la jeune fille, qui éprouvait beaucoup de sympathie pour le nouveau, lui déclara qu'il devait se presser de se procurer tous les papiers nécessaires afin d'épouser son ami. Le jeune homme demeura à Saint-Jérôme, il quitta pour la métropole en toute vitesse. Toutefois, il y eut un conflit familial pendant son absence. Le père de la jeune fille éprouvait beaucoup de sympathie, contrairement à sa femme, pour l'ancien. Il lui dit donc de tout préparer. Restait la jeune fille. Elle aimait les deux. Elle ne savait pas de quel côté faire balancer son cœur. Elle décida d'épouser le premier qui reviendrait muni de tous les papiers nécessaires et de son témoin. Et dimanche soir, à 10h30, on unissait la jeune fille avec le nouveau prétendant.
Bon,
encore là,
il y a eu un cœur éploré.
Ont-ils vécu heureux et ont-ils eu beaucoup d'enfants? Mais ça, l'histoire ne le dit pas.
Non, dans les contes, ça finit comme ça, mais pas dans la vie nécessairement.
Bien, peut-être pas dans un mariage qui se fait dans ces circonstances-là, disons.
C'était super intéressant, Marcel. Puis on va aller sur le site de l'ONF pour découvrir ce film qui met en vedette Hélène Loisel dans une amoureuse silencieuse, mais qui a finalement ouvert son cœur.
Absolument.
Merci, puis je vous dis à la prochaine. C'est Denis Martin Chabot qui sera avec vous la semaine prochaine et dans les semaines à venir.
Parfait.
On va se retrouver à un moment donné.
Oui, on se reparle.
Avec le bon numéro. À bientôt. Bye. Henri Ouellette-Vizina qui parle de la construction d'immenses tours de logements à Brossard près de la station Panama du réseau express métropolitain. Le REM a du plomb dans l'aile. La Caisse suspend indéfiniment sa participation financière dans le projet dont la construction devait être lancée à l'automne, a appris la presse. Vous écoutez Au quotidien, on est ensemble jusqu'à 11h. À venir, c'est Anne-Marie Aubin qui va nous parler de deux recueils de poésie qu'elle a lus pour nous, Au passage du fleuve et J'avais une ombre, de beaux titres. Restez là pour la suite et juste avant, JF Posé.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Petit matin dans le brouillard, à peine 17 ans et trois quarts. Pour elle, le choix était sans appel, c'était l'audit stock dans sa tercelle. No way que je ressuscite, qu'elle se disait depuis des années. Moi, puis la place, on est quitte, on n'a plus rien à se raconter. L'avait pas le pied marin, mais planté comme un refrain. L'encre de bateau tatouée sur son bras lui rappelait de s'en aller. Fac, so long, papa, maman, ainsi partent les enfants. Certains sont comme des oiseaux, doivent voler plus loin puis plus haut. C'est comme la vie, c'est comme la mort, on sait pas trop d'où ça sort. Mais y'en a pour qui c'est plus fort, sont nés pour être des météores. Les vides baissées, ça 138, elle est partie en orbite. Le vent et les larmes aux yeux emmêlés dans ses cheveux. Traveling, rue Cadillac, les études, deux kits back to back. La vie quand même pas mal d'équerre, sur le tableau moins d'ombre que de lumière. Mais bon, son tout dernier tatou, deux ailes qui s'envolent dans son cou. Montrait pas la boule dans le ventre qui venait brasser son épicentre. C'est que quelque part en elle, réglé comme un rituel. Tristesse, sa vieille amie, revenait toujours faire son lit. On a beau s'exiler, mais l'univers a ses lois. Non, on ne peut pas échapper à ce que l'on traîne au fond de soi. C'est comme la vie, c'est comme la mort, on sait pas trop d'où ça sort. Mais y'en a pour qui c'est plus rough, ils ont comme des mailles dans leur étoffe. Les vitres baissées à 138, seul comme un petit satellite. Est parti les larmes aux yeux, emmêlées dans ses cheveux. Flashback en noir et blanc, single mom depuis trop longtemps. Des nouveaux dessins un peu tristes, tordent sa peau comme des cicatrices. Perdu son innocence, sa force d'errer dans tous les sens. Fatigué des histoires poches avec des fuckboys, des tout croches. Puis sans jamais comprendre les chemins qu'il lui fait prendre. Son cœur a viré de sourd et tombé ben raide en amour. Avec un beau parleur, éteigneur de lueur, le genre de pauvre salaud qui te pète l'âme à coups de mots. C'est comme la vie, c'est comme la mort, on sait pas trop d'où ça sort. Mais y'en a pour qui c'est normal, sont comme bâtis pour faire du mal. Les vitres baissées à 138, trop tard elle a pris la fuite. Le sang et les larmes aux yeux emmêlées dans ses cheveux. petit matin un peu grisâtre, le feu qui vacille dans son âtre, elle qui a tant de rêves en faillite, éparpillée sa 138. Alors, comme il se doit, elle se fait à croire qu'elle y croit, mais elle est pas conne non plus, elle a vu neiger dans sa rue. Pourtant, c'est ce qu'elle choisit, quand chaque jour c'est fini, continuer de se battre, si fragile soit le château de cartes. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est seul au combat. Des fois, c'est dit tout bas, mais mon Dieu, à quoi ça sert tout ça? C'est comme la vie, c'est comme la mort, on sait pas trop d'où ça sort, mais y'en a qui puissent dans le noir les étincelles de leur espoir. Et vite baisées à 138, ouais, avec elle je pars tout de suite, parce que nulle part où je suis mieux quand elle est dans ses cheveux.
JF posé, emmêlé dans ses cheveux.
Chronique livre avec Anne-Marie Aubin, qu'on retrouve toujours avec plaisir. Anne-Marie qui est en Gaspésie, je crois bien.
Oui.
Alors, bonjour, quel temps fait-il chez vous à l'eau?
Il fait beau, magnifique, oui. Mais nous, on a des nuits très fraîches. Alors, on ne connaît pas la chaleur que la ville a connue ces dernières semaines.
Ah, vous êtes bien chanceux. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes?
Oui.
Oui. Bon, ils sont gentils.
Ben, j'espère.
Ouais.
Moi, je me tiens loin des foules.
Bon, alors vous êtes nu loin des foules pour lire. Vous avez lu deux recueils de poésie, un qui s'intitule « Au passage du fleuve » et puis l'autre « J'avais une ombre ».« Au passage du fleuve » par Paul Chanel Malenfant qui n'en est pas à son premier recueil.
Non, c'est ça. J'ai deux poètes. J'ai une génération différente, mais tous les deux sont très inspirés par le territoire, là où ils ont grandi, là où ils ont vécu, et ces lieux habités à différents moments de leur vie reviennent dans leurs textes comme souvenirs, comme aussi avec beaucoup d'émotions. Et je trouve que l'été, c'est une saison pour lire de la poésie parce qu'on n'est pas au même rythme et on voyage, on se promène, puis on a souvent des souvenirs attachés à des lieux. Alors moi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'aborder ce thème-là à travers les deux recueils. Alors le premier, donc, au passage du fleuve, est aussi illustré par des œuvres de Martin Gendron en couverture et à l'intérieur. Et ce sont des œuvres, comme je dirais, qui témoignent aussi de ce qui sont les berges de la région du Bas-Saint-Laurent où est né l'auteur. Ce titre-là, Au passage du fleuve, ben, c'est le titre qui a gagné le prix littéraire du gouverneur général 2025, catégorie poésie. C'est pas la première fois que Paul Chanel Malenfant est récompensé pour son œuvre, mais celui-là, c'est un ouvrage qui revient sur une thématique qui était au début de sa carrière, c'est-à-dire le fleuve. Plus tard, il est revenu aussi avec un autre titre où il est question d'un recueil maritime chez Norrois, toujours. Et là, 25 ans plus tard, ben, il reprend finalement cette thématique qui lui est très chère. Alors, c'est divisé en 7 chapitres avec un épilogue. Ce sont des fragments, des petits poèmes, des images très fortes qui sont inscrites dans le territoire qu'il nomme et qu'il est fier de dire. Puis parfois, il y a une émotion qui nous chavire complètement. Au début, on décrit ça, c'est comme un beau paysage, c'est magnifique. Puis là, il arrive quelque chose qui nous met en suspens. Puis, oh, il y a quelque chose quand même de triste ou de dramatique ou d'inquiétant qui s'est passé dans cet endroit-là. Alors, la première phrase du recueil nous dit « Je marche dans ma ville le long du fleuve au long cours parmi les profils étrangers, les syntaxes urbaines. » Donc, on le sent quelque part comme à Rimouski ou Rivière-du-Loup. Il y a un autre chapitre où il est question du fleuve, ça s'appelle « Au passage du fleuve », et il est question du Bic, les îles du Bic, je ne sais pas si vous êtes déjà allés,
oui.
Des gros rochers, puis on se demande qu'est-ce qu'ils font là, hein? C'est assez mystérieux. Alors il dit « Quel dieu ancien a dispersé les îles du Bic dans le cercle de l'encre, bloc erratique devant la montagne, mausolée ?» Alors là, on sent que ça peut être comme des tombes, effectivement. On se demande qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été là dans tout le cycle, finalement, de l'évolution. C'est quelqu'un qui est contemplatif, qui est observateur, puis qui présente la beauté de tout ce qu'il voit autour de lui. Il dit, par exemple, d'une lucarne de l'arrière-pays où je suis né, je vois la mer pour la première fois. fatale comme un premier amour. Ma mère retourne lentement les feuilles de thé au fond de sa tasse. Il y a du thym dans l'air et du fenouil. C'était avant que ne s'éteigne la voix de l'ange dans l'oreille des coquillages de Trois Pistoles.
Wow.
Alors oui, l'enfance, hein, on aime ça, écouter dans les coquillages. Mm-hmm. Et s'il dit que ça s'est éteint, c'est comme si finalement, il y a des souvenirs, mais lui, il est devenu un adulte et la voix s'est éteinte. Alors ensuite, il parle de l'écriture. Comment est-ce qu'il en est venu à écrire? Et il dit que bon, ben ça se passe dans un petit geste de la main et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener au moment où il va l'écrire. Alors il dit du premier geste qui entre la main au mot inaugural sur l'écran jusqu'à l'avènement du poème parmi des fragrances maritimes, l'écriture surgit, une léthargie, un déracinement vagal de l'être. Et puis il y a beaucoup question de l'enfance. Parce qu'il se souvient de tout ce qu'il a vécu quand il était jeune et comment cet univers-là le nourrit. Et puis, il était un rêveur. Et sa mère va lui dire à un moment donné, « Reviens à toi, sinon tu vas sombrer dans ton rêve. » Alors, on voit que tout ça a nourri l'écriture qui est là. Et le fleuve, bien sûr, toujours, il dit, « Fleuve de profondeur, le Saint-Laurent se déploie, tel un poème de Gatien Lapointe, phrase inaugurale de la cartographie de l'univers. » Et il dit « La poésie renaîtra comme un art de l'enfance. » En effet, l'enfance est souvent la source d'inspiration. Et puis, bon, ben, ces textes nous ramènent à notre enfance et à ces lieux qu'on a habités ou qu'on visite. Alors moi, le Bas-Saint-Laurent m'émeut beaucoup. Quand j'arrive à Rivière-du-Loup, que je descends la côte, que je vois le fleuve, à chaque fois, j'ai un émerveillement.
Ah oui, je vous comprends. C'est tellement beau. Oui,
puis il termine en allant en Gaspésie, alors ça m'a touché doublement. C'est un très beau recueil que je conseille à tous les gens qui voyagent cet été, que ce soit la Côte-Nord, Charlevoix, peu importe. Le fleuve est tellement présent dans notre vie ici au Québec et on est chanceux de l'avoir.
Oui.
Puis lui, il nous aide à l'aimer, je pourrais dire ça.
Un fleuve à découvrir ou à redécouvrir et un auteur aussi à découvrir ou à redécouvrir. Vous me faites penser que je l'ai lu, lui, mais il y a belle lurette. Je ne sais pas si vous l'aviez lu, Anne-Marie, quoi déjà la nuit?
Non, c'est lui.
C'était de la fiction poétique et dans ce livre-là, le narrateur accompagne sa compagne d'une quarantaine d'années qui est en fin de vie. C'est assez bouleversant.
Ah, ça se peut parce qu'il est question d'une maison ici où une personne est morte. Alors, il y a des souvenirs comme ça qui étaient peut-être en lien avec ça.
Oui, ça fait écho. Au passage du fleuve par Paul Chanel Malenfant, c'est aux éditions du Norrois. Et toujours aux éditions du Norrois, j'avais une ombre, cette fois par une plus jeune. Elle est née en 1990, Andréanne Frenette-Vallière. Chanel Malenfant, lui, a 76 ans.
Oui, Andréanne Frenette-Vallière, je l'ai découvert ici en Gaspésie et à Maria. Nous avons chapiteau tout l'été où il y a des spectacles, puis il y a un festival de poésie qui va se passer bientôt, là, au mois d'août. Et elle était parmi un groupe de poètes invités, toute jeune. Et ça m'a touchée directement à la lecture qu'elle a faite de ses textes. Et c'était le recueil qui s'appelle « Juillet, le Nord », pour lequel elle a eu le prix Félix Seffler et qui se passe beaucoup dans la région de Natashquan. Cette autrice est née à Mont-Saint-Hilaire, et donc elle est montérégienne. Et puis elle a écrit un livre sur cette région-là qui s'appelle « Tu choisiras les montagnes ». Et dans ce titre-là, il y a, dans « J'avais une ombre », il est question à plusieurs moments du Mont-Saint-Hilaire qu'elle appelle le Mont-Pivoine. On le reconnaît par la description, la rivière Richelieu, la vallée du Richelieu. Alors c'est de la poésie et en même temps c'est des récits. Ce sont plusieurs fragments divisés en plusieurs chapitres. Et entre chaque chapitre, il y a un texte qui s'appelle Nocturne. Alors, le premier, c'est Nocturne 1, ensuite 2, 3, 4, comme ça. Et ça, c'est un texte différent au niveau du ton, au niveau du point de vue, à propos de ce qu'elle écrit, comme si elle se dédoublait, en quelque sorte. Et puis, il est question de mort, de deuil, de disparition, de détresse, du climat et de la terre, la nature et la planète qui ne sera jamais la même. Du Mont-Saint-Hilaire, puis il y a aussi des clins d'œil à la pandémie, à ce qu'on a fait depuis la pandémie, comment est-ce qu'on a habité les lieux d'une manière différente. Parce que dans ce recueil-là aussi, il est question des lieux, des territoires. Elle va parler des cabanes où elle va s'installer comme un refuge. Les lieux sont très inspirants pour elle. Alors, elle a grandi donc sur la montagne et puis elle va aller vivre à Natashquan sur la côte nord. Elle va aller dans Charlevoix et elle parle des lieux où elle va passer du temps. Ce sont des textes très forts, parfois très sombres, mais il y a quand même une lueur d'espoir parce que, bon, elle est très jeune, puis je pense qu'elle est consciente de ce qui se passe présentement sur la planète, puis ce qui était le passé, puis ce qui est le présent, puis ce qui est le futur, ce qui sera le futur, on ne le sait vraiment pas. Alors, elle va dire dans la première partie, « Mi-enfant, mi-centenaire, je suis à un âge où on s'installe dans l'âge. Je n'ai pas eu le cadeau promis par mes douleurs, mon impotence, tout ça, le ventre, les hontes, les larmes, pour rien. » Alors, au début, c'est la déception, finalement, de ne pas voir ce qu'elle attend de la vie. Et ensuite, elle va dire, « Un nœud grandit dans ma poitrine, j'entends peu à peu mes systèmes qui coincent. Où est la gaieté? Comment se porte-t-elle, cette illustre et vieille amie, cette parole sans entrave, diligente, je renouvelle le pacte, je m'enferme. » Donc, elle s'enferme, bon, pour mieux le comprendre. Elle dit, « J'ai tout essayé pour me séparer. J'ai dormi où j'ai pu, en désordre des poèmes. On m'a dit, tu penses que tu es dehors, en dehors du monde, mais tu fais partie du monde. » Puis ensuite, ben, elle va parler de la solitude. Comme quoi, on a appris à vivre seul pendant la pandémie, à se couper du monde. Et puis, bon, ben, ça a peut-être changé notre relation aux autres. Et puis, bon, ben, elle se sent elle-même en parallèle souvent avec d'autres. Il y a un texte où elle dit, « Dans les bourrasques de poudrerie, nous nous enfuyons délibérément. Là où l'on pêche le chevalier, j'ai conduit le long de la rivière, toi sur des rangs de campagne, afin de marcher ensemble sans nous voir. » Bon, ben, là où on pêche le chevalier, c'est sur la rivière Richelieu, ça fait référence donc à la vallée où elle a grandi. Alors, elle se demande qu'est-ce que c'est qui va se passer. Finalement, elle s'inquiète un peu de son avenir, puis elle dit, « Cette époque était la nôtre, rappelle-toi avant elle, rappelle-toi avant elle, il n'y a rien. Cette époque, c'est maintenant. » Alors, elle va dire comment, finalement, on arrive à vivre le présent dans tout ce bouleversement qui se passe. Puis, elle laisse quand même l'espoir, au fond, de dire que de tout ce confinement, on va se sortir vivant et on va s'aimer. C'est beaucoup ça. C'est vraiment un sentiment de réconfort. Elle dit, « Je sentirai enfin ta paume sur mon visage, enfin ta lenteur d'arriver. Alors, je grimperai. Je plongerai entre tes morales lavées. Je demanderai, aime-moi, et nous serons exaucés. » Donc, très beau recueil d'une jeune autrice à surveiller qui nous produit des textes très forts, sombres parfois, mais c'est la réalité. Alors, pour elle, les lieux ne sont pas toujours souvenirs de belles choses, autant que chez Paul Chanel, Malenfant aussi, et le décor, et la nature, et les oiseaux, et les animaux, c'est ce qui la réconforte. Alors, deux recueils de deux générations qui ont des lieux d'inspiration semblables, et surtout des émotions et du réconfort que ces lieux-là leur rapportent. Voilà, c'était ma suggestion pour cette semaine.
J'avais une ombre, c'est encore une fois aux éditions du Norrois par Andréanne Frenette-Vallière, poète, essayiste et chercheuse. Merci beaucoup Anne-Marie pour votre contribution à cette émission. Puis la semaine prochaine, vous retrouverez Denis-Martin Chabot. Nous, on va faire de la radio ensemble à la rentrée.
Parfait et bonnes vacances.
Merci, vous êtes bien fine.
Au revoir. So I'll let it go.
Paradis perdu par Christine and the Queens.
Sous le feu des critiques, Québec relance un programme pour les personnes handicapées. C'est sur le site ici.radiocanada.ca. Ariane Aymon, Jessica Picard est mère de deux jeunes enfants, dont un nouveau-né de 3 mois. Elle est aussi tétraplégique depuis un accident survenu en 2007. Avec la famille qui s'est agrandie, la résidente de Québec n'a eu d'autre choix que de vendre son logement adapté à ses besoins pour déménager dans une autre résidence, une tâche plus qu'ardue pour une personne en situation de handicap. En raison de la suspension du programme d'adaptation de domicile, le PAD, Jessica Picard a dû payer elle-même les coûts des rénovations de sa nouvelle maison, qui s'élève à 102 000 $. « Je dois être capable d'entrer et de sortir de la maison s'il arrive quelque chose, surtout que j'ai un bébé. Et il faut que je sois capable de cuisiner, de faire à manger, de leur donner leur bain. » Même pour moi, il faut que je sois capable aussi de manger, de me laver, de faire mes soins parce que je suis autonome, explique-t-elle. Madame Picard n'est pas la seule à subir les contre-coups de la suspension du PAD. Selon les données provinciales, 1/5 de la population québécoise, 21%, de 15 ans ou plus, vit avec une incapacité. S'ajoutent à ce nombre les personnes âgées, pouvant elles aussi bénéficier du PAD si elles doivent adapter leur domicile, précise le directeur général de Moelle Épinière et Motricité Québec, Walter Zelaya. Si pour Madame et Monsieur Tout-le-Monde, obtenir un logement c'est difficile, imaginez-vous pour une personne en situation de handicap qui doit avoir un logement adapté, dit Walter Zelaya. L'activiste et défenseur des droits des personnes handicapées, Jonathan Marchand, déplore quant à lui que plusieurs personnes n'aient pas accès à leur pleine autonomie en raison de la pénurie de logements adaptés. « J'ai entendu des histoires de personnes handicapées qui étaient carrément prisonnières de leur domicile, c'est-à-dire qu'ils étaient en fauteuil roulant et qu'ils ne pouvaient pas rentrer ou sortir de leur domicile de façon autonome. Ce dernier est connu pour avoir réussi à sortir du CHSLD où il résidait contre son gré depuis presque 10 ans, après des pressions politiques vraiment importantes. » En 2023, le gouvernement provincial a bonifié les subventions du PAD, passant de 16 000 à 50 000 $. La mesure a fait bondir le nombre de demandes d'aide financière sans que le budget du programme soit ajusté en conséquence. L'ensemble des fonds alloués étant épuisé, Québec a annoncé en novembre 2024 une suspension temporaire du programme, puis a complètement cessé d'accepter de nouvelles demandes en avril 2025. Face à la grogne, le gouvernement Fréchette a finalement décidé, début juillet, de réinjecter des fonds afin de réactiver le PAD à partir du 12 août 2026. Ce qu'on nous laissait croire, c'est que oui, on va revenir avec le PAD, mais avec un programme beaucoup plus costaud. Puis finalement, l'éléphant a accouché d'une souris, soutient M. Zelaya. Québec a annoncé une allocation de 88 millions de dollars pour les années 2025 et 2026. Or, M. Zelaya estime que ce montant n'est que de la poudre aux yeux, car les deux tiers de l'enveloppe ont déjà été alloués aux demandes qui étaient en suspens. On aurait dû avoir une somme additionnelle, déplore-t-il. Dans une déclaration écrite, la SHQ a indiqué qu'elle ne peut pas prédire le nombre de demandes qui seront soumises à partir du 12 août. L'organisme public affirme que grâce au financement annoncé, le programme devrait être en mesure de traiter environ 1 500 dossiers par an, ce qui représente une capacité accrue d'environ 25 % par rapport au volume habituel. Les ministères de la Santé et de l'Habitation n'ont pas donné suite aux demandes de Radio-Canada. L'Office des personnes handicapées du Québec, qui est rattaché au ministère de la Santé et des services sociaux, reconnaît l'importance pour les personnes handicapées d'avoir accès à un logement accessible et adapté à leurs besoins, tout en admettant aussi que ces dernières font toujours face à des défis supplémentaires pour y accéder, en comparaison avec les personnes sans incapacité. Même si le directeur général de l'OPHQ, Daniel Jean, se dit réjoui de la réouverture du PAD, il est également conscient de la nécessité d'examiner la question de la stabilité de son financement à long terme pour éviter de futures interruptions. Pour la directrice générale de l'organisme Défi sans limite, Maud Massicotte, l'annonce du relancement du PAD laisse un goût amer. Bien qu'elle accueille favorablement la réouverture du programme, elle demeure préoccupée par les sommes annoncées qu'elle juge insuffisantes pour répondre à la demande. L'adaptation d'un domicile n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre de façon autonome, sécuritaire et digne, dit Mme Massicotte. De son côté, le directeur général de l'Association d'information en logement des immeubles adaptés, André Leduc, considère que l'absence de soutien financier pour adapter sa résidence peut entraîner une forme de discrimination envers les personnes en situation de handicap, les reléguant au rang de citoyens de seconde zone. Jessica Picard partage ce sentiment d'iniquité. Contrairement au reste de la population, dit-elle, l'argent durement gagné par ces personnes handicapées ne leur sert pas à se payer des voyages ou à se gâter, mais seulement assurer leur propre autonomie. C'est ça qui est fâchant et c'est ça qui m'enrage un petit peu. Jonathan Marchand est d'avis que l'enveloppe du PAD devrait être ouverte et non limitée. Il rappelle que loger des personnes dans des logements institutionnalisés comme des hôpitaux ou des CHSLD coûte extrêmement cher. Selon M. Marchand, Québec fait du gaspillage en n'offrant pas le soutien pour que les gens puissent adapter minimalement leur domicile. J'y reviendrai peut-être demain. Entraîner son nez est bon pour le cerveau. La perte d'odorat peut annoncer plusieurs maladies, dont l'Alzheimer, le Parkinson. S'arrêter pour sentir les roses est un bon conseil de vie. Et la recherche suggère que cela pourrait avoir un avantage supplémentaire. Ce serait une bonne façon d'améliorer la santé de son cerveau. Alors, santé, santé, c'est bon pour la santé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute de ce 28 juillet 2026, l'émission quotidienne qui revient demain à compter de 9h30. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Ça a bien été, Maurice?
Oui.
Oui, on se reprend demain?
On recommence.
OK, on continue. Et puis, vous continuez. Et à demain. Beau temps, mauvais temps, on sera là.